Radio Okapi.
Présenté par Belinda Bossouma, voici le sommaire. Un conflit foncier soldé en mort d'hommes, des blessés graves et des dégâts matériels importants. Il s'agit des habitants de Iambé et ceux de Osombo dans le territoire de Lodja, province de Sankuru. Ils se disputent l'appartenance d'une forêt. Des policiers dépêchés sur place pour remettre de l'ordre ont été séquestrés et leurs armes ravies par les protagonistes. Des cadavres et des cercueils emportés par les eaux des pluies. Cela se passe au cimetière de Bunduki dans la ville de Kabinda, province de Lomami. Situation consécutive au déplacement du lit de la rivière Kabondo, voisine de ce cimetière. Les autorités provinciales s'emploient à trouver des solutions durables. Et puis, résurgence des cas de choléra dans le territoire de Masisi au Nord Kivu. Cette entité compte 28 aires de santé. Pour en parler, nous recevons le médecin chef de zone de santé de Masisi, docteur Bindu Kandundao. Madame, messieurs, bonjour. Ce journal part de la province de Sankuru. 3 morts, plusieurs blessés graves et des dégâts matériels importants. Bilan des affrontements qui ont opposé hier vendredi les habitants des localités de Iambé à ceux de Osombo. Nous sommes dans le secteur de Watambolo, territoire de Lodja. Les habitants de ces deux localités voisines se disputent l'appartenance d'une forêt. Quelques agents de la police dépêchés sur le lieu ont été séquestrés et leurs armes ravies par les protagonistes. Récit des faits avec Esther Ndalafina.
Les premières informations parvenues à l'administrateur du territoire de Lodja indiquent que les habitants de Osombo et ceux de Iambé se disputent une forêt. Ceux de Osombo, munis d'armes blanches et de fabrications traditionnelles, sont allés attaquer les habitants de Iambé. François Mouledi se réserve de donner le bilan car les affrontements se sont produits dans un lieu non couvert par les réseaux mobiles. Toutefois, l'administrateur reconnaît qu'un groupe de policiers dépêchés sur place ont été par les habitants de Osombo avant d'être sauvés par un renfort. Cependant, des sources de la société civile, on annonce un bilan de 3 personnes tuées, plusieurs blessés graves, ainsi que des dégâts matériels importants. Quelques heures après les affrontements, les images des enfants et des femmes blessées circulent sur les réseaux sociaux. Une réunion urgente de sécurité a été présidée vendredi soir par l'administrateur du territoire de Lodja. Esther Ndalafina, Mbujimai, Radio Okapi.
Du côté du Sud Kivu, le collectif des organisations de défense des droits humains dans le territoire de Walungu alerte l'opinion nationale et internationale sur les abus commis par l'AFC M23 contre la population civile dans 4 groupements des tueries en cascade. Chaque fois qu'il y a affrontement dans le territoire de Walungu entre les Wazalendo et l'AFC M23, signale la même source dans un rapport publié récemment. Les détails avec Richard Junior Kamunga.
Plus de 112 civils, enfants, hommes et femmes ont été lâchement assassinés dans les circonstances post-affrontement. Les collectifs apportent qu'en plus de ces massacres, il y a aussi des femmes violées et des biens de la population civile pillés à grande échelle. Les rapports ajoutent que ces faits sont documentés depuis le mois de mars 2025 dans les groupements de Kanyola, Mulamba, Tubimbi, Kamisimbi et Nyangezi. D'après les mêmes collectifs, des organisations de défense des droits humains dans les territoires de Walungu, le cas le plus récent est celui des 2 membres d'une même famille arrêtés à Kanyola jeudi dernier après les affrontements qui ont opposé les Wazalendo au M23. Les collectifs alertent l'opinion autant nationale qu'internationale pour que ces 2 personnes détenues injustement soient libérées et remises à leurs familles sains et saufs. Depuis leur arrestation dans leur village du groupement de Kanyola, leurs proches n'ont plus de leurs nouvelles.
Dans la province du Tanganyika, 7 cas de violence conjugale avec des morts enregistrés en l'espace de 3 mois dans la ville de Kalemie, rapporte la nouvelle dynamique de la société civile Chumvia Congo. Dans une déclaration ce samedi à Radio Kapi, le coordonnateur provincial adjoint de cette structure citoyenne dit déplorer ce mal dont 7 femmes ont perdu la vie tuées par leur mari. Chirac Issa informe que le dernier cas en date est survenu au quartier Moulengui dans la commune Lukuga où une femme victime de violence sexuelle, violence conjugale a été tuée à la machette par son mari. La victime laisse 9 enfants. Chirac Issa en parle au micro de Paulin Munanga.
Ce crime vient de se passer au sein de Moulengui, où un homme a utilisé sa machette pour tuer sa femme. Et elle est morte sur les champs. Nous condamnons avec toute notre dernière énergie, puisque c'est un crime. Tuer un être comme ça, à base de quoi, des machettes, ce n'est pas aussi facile. Voilà pourquoi nous sommes en train d'interpeller les instances judiciaires à faire leur travail et que l'auteur réponde, puisque c'est un crime qu'il vient de faire. Normalement, on ne se serait pas d'interpeller aux hommes d'abandonner ce genre de pratiques, puisque on sent que la violence conjugale bat record au sein de notre ville de Calémie et aux environs. C'est comme un dernier cas qu'on a enregistré au sein de l'Auxerre Béton, où un homme a utilisé aussi le machette pour tuer sa femme. Donc, nous déplorons ce genre d'événements et nous interpellons aux hommes. Et ils doivent comprendre que les femmes, ce sont les êtres qui doivent être protégés de tout le monde.
Contactée, la chef de division provinciale du genre, famille et enfants du Tanganyika reconnaît qu'il y a beaucoup de cas de violence conjugale à Calémie, mais pour le moment, elle ne peut donner des chiffres, dit-elle. Restons à Calémie, dans le Tanganyika, avec cet autre drame. Deux cas de justice populaire enregistrés en l'espace de 24 heures dans cette ville. Le dernier cas en date, la nuit de vendredi à ce samedi, un présumé voleur a été brûlé vif par une population en colère, signalant que ce drame survient au moment où la ville de Calémie fait face à un regain de criminalité. Paulin Munanga nous fait le point.
À Calémie, le dernier cas de justice populaire s'est produit au quartier Solo. Les jeunes du quartier se sont mobilisés et effectuent des patrouilles nocturnes. C'est ainsi qu'ils ont réussi à appréhender un présumé voleur, indiquent des sources locales. Nathan Mugisho, coordonnateur provincial de l'association Umoja Ninguvu dans le Tanganyika, revient sur les circonstances de la mort des deux présumés voleurs qui ont été appréhendés par la population.
Tout le matin vers 5h, il y a un présumé voleur qui a été retrouvé en pleine herbe, en train de se cacher. Pourtant blessé, et la colère, la furie de la population s'est directement manifestée, et on a vu des images comment le monsieur était lynché, il a été brûlé vif la nuit du 20 au 21, soit hier, au niveau de la cité, sous l'avenue Tatanabana, dans la commune Calémie. Il y a un présumé voleur qui a été aussi attrapé par la population. Le présumé voleur était lynché et puis brûlé vif, et il est décédé.
Nathan Mugisho ajoute que c'est au total 5 morts qui sont enregistrés cette semaine dans la ville de Calémie à la suite de la criminalité. 2 personnes ont été tuées par des bandits armés, un corps sans vie a été découvert et 2 présumés voleurs tués par la population. Lubumbashi, Paulin Munanga, Radio Okapi.
Dans l'actualité aussi, nous apprenons le décès du leader de la milice Zaïre, Baraka Amos, mort survenu jeudi dans un accident de circulation en Ouganda. Son groupe armé très actif dans le territoire de Djougou en Ituri et allié à la Convention pour la Révolution Populaire CRP de Thomas Lubanga était cité dans des graves violations des droits de l'homme dans le territoire de Djougou. La milice contrôlait également plusieurs sites miniers, notamment celui de Mabanga qui servait à financer la guerre contre la République. Le récit de Isaac Remoyope.
Selon plusieurs sources, le leader de ces groupes armés s'était rendu en Ouganda pour des raisons encore non élucidées. Certaines informations indiquent toutefois qu'il aurait rencontré des membres de la CRP de Thomas Lubanga installés en Ouganda afin de redynamiser leur mouvement armé actif contre les FARDC du côté de Nyamamba et Kafé dans la plaine de la Calbert ainsi que dans d'autres localités du territoire de Djougou. C'est sur le chemin de retour en direction de Buguma, une localité ougandaise proche de la Calbert, que la voiture à bord de laquelle il voyageait avec ses proches est en à collision avec un camion. Aucun occupant n'a survécu. La fatigue au volant serait à l'origine de cet accident. La milice Zaïre, signataire de l'accord de paix d'Arou du 28 juin 2025, contrôlait auparavant plusieurs localités minières du territoire avec son bastion à Mabanga, une zone riche en minerais. Depuis juin dernier, ce groupe armé a été délogé par les FARDC qui occupent désormais la région. La milice Zaïre est l'un des groupes armés cités dans de nombreux cas de violation des droits de l'homme, notamment dans les rapports des groupes d'experts des Nations Unies. Bounia, Isakare Moyope, Radio Kapi.
Direction la province de Lomami, je vous l'ai dit dans les titres, le cimetière de Bunduki dans la ville de Cabinda est menacé depuis jeudi dernier par les eaux de la rivière Kabondo. Le lit de cette rivière a été déplacé de quelques mètres suite aux dernières pluies qui se sont abattues sur la ville. Quelques dépouilles et des cercueils ont été emportés par les eaux. Après sa visite sur le lieu, le vice-président de l'Assemblée provinciale de Lomami a tenu d'urgence une réunion avec le vice-gouverneur de province pour des solutions durables. Compte rendu de Esther Ndalafina.
Au cours de la visite de ce cimetière, le député provincial Hippolyte Kabango, vice-président de l'Assemblée provinciale de Lomami, a fait un constat amer.
Le constat est vraiment amer. Il faut des solutions urgentes. Et apparemment, il y a aussi des petits conflits coutumiers de gestion de ce cimetière ici. Au-delà de ça, il faut essayer d'éviter la déviation de la rivière Kabondo, de remettre sur son lit d'antan et permettre de sauver les tombes qui sont encore restées intactes. On ne mérite pas cette situation. Il faut le corriger tout de suite.
Le vice-président de l'organe délibérant a du coup convoqué une réunion d'urgence. Quelques décisions ont été prises, affirme le vice-gouverneur.
Il faut inviter l'office de route qui est notre service technique. Il doit d'abord aller remettre l'ancien lit de cette rivière-là. Et enfin, nous disons à la population de ne plus enterrer présentement les morts là-bas. Ça, c'est une mesure conservatoire. Nous demandons à la population de ne pas utiliser cette eau-là pour la consommation.
Signalons que certains habitants ont retrouvé les corps des membres de leur famille et d'autres les ont exhumés pour les enterrer à d'autres endroits. Les secouristes de la Croix-Rouge sont mis à contribution pour éviter la propagation des maladies. Esther Ndalafina Mbujimai, Radio Okapi.
Dans l'actualité aussi, les acteurs judiciaires de la province de la Tshopo renouvellent leur engagement au service de la justice. C'est à la faveur de la rentrée judiciaire hier. Cérémonie est tenue dans la salle des audiences de la cour d'appel de Kisangani. Plusieurs personnalités, aussi bien judiciaires, politico-administratives, militaires que policières, ont pris part à cette cérémonie solennelle dont le gouverneur intérimaire de la Tshopo. Reportage de Jacques Moukonkolé.
Intervenant en premier au cours de cette cérémonie, le bâtonnier maître Aubin Akamba, dans son allocution, fustige la surpopulation carcérale à la prison centrale de Kisangani. Il plaide pour la dignité de ses pensionnaires.
Qu'est-ce que l'intimité ? C'est quand un être humain, même privé de liberté, est contraint de dormir sous un matelas au sol, dans une promiscuité constante et insalubre. C'est l'impossibilité d'accéder aux soins.
Pour sa part, dans sa mercuriale, le procureur général près la cour d'appel de Kisangani planche sur la liberté d'expression. Certains compatriotes la confondent au libertinage. Albert Lusumbe enjoint les magistrats à faire respecter et protéger les lois de la République.
Les offenses envers la très haute autorité du pays, les outrages envers les autorités publiques et les propagations de fausses informations et de faux bruits doivent être réprimés sans relâche.
Enfin, dans son discours, le premier président de la cour d'appel de la Tshopo se dit interpellé par la récurrence des instructions de l'inspectorat général des services judiciaires et pénitentiaires. Selon Dominique Mandemobiaï, celui-ci semble ignorer ses missions traditionnelles. Si ses services continuent à ramer à contre-courant, il y a risque qu'il s'érige en troisième degré de juridiction, ce qui est illégal, souligne Dominique Mandemobiaï. Jacques Mkonkolé, Kisangani, Radio Okapi.
À Bounia, la MONUSCO a remis hier un bâtiment destiné à abriter le barreau de l'Ituri ainsi que le bureau des consultations judiciaires et juridiques gratuites pour les personnes vulnérables. Les travaux de finition de cet ouvrage ont été financés par la mission onusienne dans le cadre de son projet à impact rapide. Cette initiative vise à promouvoir un accès équitable à la justice, à renforcer l'état de droit et à contribuer à la restauration de l'autorité de l'État dans la province de l'Ituri. Reportage de Isaac Remoyope.
Le bâtiment opérationnel depuis vendredi comprend une salle de réunion, les bureaux du président, des salles de consultation, un secrétariat ainsi que des installations sanitaires. Jusqu'ici locataire depuis sa création en Ituri, le barreau dispose désormais d'un espace qui améliore les conditions de travail des avocats, mais surtout l'accompagnement des personnes vulnérables dans cette zone touchée par les conflits armés, avec comme conséquence la paupérisation de la population. Une action qui vise à promouvoir un accès équitable à la justice. Désiré Baloumé de la section d'appui à la justice de la MONUSCO.
Votre mission révèle également une dimension sociale essentielle, celle de protéger et défendre le plus vulnérable et de contribuer ainsi activement au processus de pacification, de stabilisation et de bien-être de la population civile en Ituri.
Selon le président du barreau de l'Ituri, cet ouvrage est le résultat d'un partenariat avec la MONUSCO pour renforcer les services d'aide juridique, en particulier pour les plus vulnérables. Maître Joseph Keta.
C'est donc une joie immense sur le plan professionnel qu'un barreau digne de son nom puisse être doté d'un bâtiment adéquat. Donc c'est le gage d'assurer l'accès à la justice à tous, surtout aux plus vulnérables.
Plusieurs autres partenaires ont également contribué à la réalisation de ces bâtiments. Bounia, Isakare Moyope, Radio Okapi.
Actualité internationale. Nous sommes en Afrique du Sud. Des centaines de femmes se sont rassemblées à Johannesburg un jour avant l'ouverture du sommet du G20. Vêtues de noir, ces citoyennes ordinaires, célébrités et militantes ont manifesté pendant 15 minutes en position allongée, symbolisant les 15 vies perdues chaque jour à cause de la violence fondée sur le sexe en Afrique du Sud. Ce pays qui a présenté un programme progressiste sur les questions d'égalité entre les hommes et les femmes au cours de sa présidence du G20 a pourtant un taux de féminicide 5 fois plus élevé que la moyenne mondiale selon ONU Femmes. Et ce problème dure depuis des dizaines d'années. Cette action non violente a été organisée dans plusieurs villes par le groupe à but non lucratif Women for Change. Une pétition de protestation a reçu plus d'un million de signatures.
L'invité.
Comme annoncé, nous recevons Dr Bindu Kandunda Olucien. Il est médecin chef de zone de santé de Masisi dans le Nord Kivu. Il nous parle de la résurgence des cas de choléra dans son entité qui compte 28 aires de santé. Dans cet entretien avec Bernardine Diambou, il fait l'état des lieux de la situation sanitaire sur place.
Docteur Lucien Kanunda, bonjour.
Bonjour.
Comment se présente la situation sanitaire dans la zone de santé de Masisi?
Comme tous les autres territoires, la zone santé de Masisi aussi connaît le déplacement de la population et le regroupement de population dans des camps de familles d'accueil et dans les ménages spécifiques. C'est depuis la semaine épidémiologique 40 que nous avons commencé à notifier des cas de diarrhée choléreforme dans la zone. Les cas index avaient commencé dans l'aire de santé de Mianja, dans le poste de santé de Hembe. Et pratiquement, nous avons fait une investigation et nous avons commencé à faire la réponse et la prise en charge. Du côté de Mianja, jusque-là, nous sommes aux 40 cas, mais la situation continue à s'aggraver au niveau de l'aire de santé de Masisi. Sur le plan mortalité, il n'y a pas de décès dans les centres de traitement, mais il y a des cas de décès communautaires. Deux cas enregistrés à Hembe, à Mianja, et un cas, un enfant du Mongaliema enregistré dans l'aire de santé de Masisi.
Et qu'en est-il de la prise en charge des malades?
Actuellement, les cas sont pris en charge à Hembe avec l'appui du partenaire Première Urgence Internationale qui est basé à Masisi Centre, avec l'appui du partenaire MSF Belgique, qui est aussi basé à Masisi, au niveau de l'hôpital général de référence. La situation commence à embrasser même les aires de santé avoisinantes, car nous avons enregistré des cas provenant de Kitsule, de Sati, à côté de l'aire de santé de Masisi. Il y a aussi d'autres petits soucis, parce qu'il n'y a pas de camp de déplacés actuellement, mais nous avons remarqué, par exemple, pour Masisi Centre, 11 sites d'hébergement de déplacés. La prison centrale, il y a plus de 700 familles. Au niveau du bureau PVS Police, il y a plus de 80 familles et d'autres maisons où la population s'abrite. La population qui quitte les zones où il y a des affrontements pour s'abriter à Masisi Centre. Ces populations et d'autres qui sont dans les familles d'accueil ont des difficultés d'avoir des installations sanitaires convenables. Nous sommes en train de faire les plaidoyers. Nous sommes avec Concern qui fait quelques plaidoyers pour avoir des kits de choléra à tous les déplacés. MSF Belgique fait la prise en charge au niveau de l'hôpital. Il fait aussi quelque chose par rapport à la communication, à la sensibilisation de la population contre l'épidémie. Et il envisage faire quelques ouvrages WASH. Help the Child Down, il ne s'est pas encore prononcé. Il est dans la zone aussi. Il est en train de faire les plaidoyers. La Croix-Rouge de la RDC qui nous aide à pulvériser, à désinfecter les ménages ici des cas. Et appuyer aussi un kit choléra parce que ces populations-là, ils n'ont pas de moyens pour stocker de l'eau, pour le transport de l'eau, même si l'eau n'est pas de qualité pour désinfecter. Les amis de PPSP aussi, ils interviennent aussi à Mianja pour la construction des ouvrages hydrauliques. Masisi Centre, il y a d'autres activités qu'ils envisagent de faire. Mais jusque-là, vraiment, nous prions beaucoup aux partenaires de plaider pour avoir une urgence, un appui à l'installation hygiénique, les toilettes, les douches et la disponibilité de l'eau de qualité au niveau de ces sites d'hébergement des déplacés.
Alors, docteur Lucien, face à cette résurgence des cas de choléra, qu'est-ce que vous recommandez à la population pour lutter contre cette maladie meurtrière?
Nous demandons toujours à la population d'être trop vigilant devant tout cas de diarrhée cholériforme, de se diriger vers les centres de santé les plus proches ou de trouver le site et les points SRO que nous avons installés un peu partout pour prendre l'SRO à côté. Aussi, nous les prions de ne boire que de l'eau potable. Nous les prions aussi de bien cuire les aliments, laver les fruits, laver les légumes, tout ça. Le lavage des mains doit être systématique, mais surtout aussi de garder un environnement sain et propre. Globalement, en dehors des grandes endémies comme paludisme, des problèmes de malnutrition, infections respiratoires, des jeux hérémitias, des cas de diarrhée simple, les diarrhées choléiformes nous attaquent chaque année. Mais le gros des problèmes aussi, la zone de santé a une très faible couverture en eau potable. Nous sommes presque à moins de 50%, surtout que les aires de santé les plus éloignées qui n'ont pas d'accès géographique et sécuritaire ont vraiment de très faibles couvertures en eau potable. Surtout à ces moments où il y a un déplacement continu des populations et une forte concentration, une promiscuité de la population, il faut intervenir dans ces zones.
Radio Kapi, vous remercie.
Je vous remercie.
Docteur Bindou Kandunda Olucien, médecin chef de zone de santé de Massissi dans le Nord Kivu, répondez aux questions de Bernardine Diambo. Par ici prend fin ce journal coordonné par Richard Junior Kamunga, Dieudonné Nyangasa à la mise en onde. Merci d'avoir été des nôtres.